Chapitre 8. Paris, novembre 1821. Année 1789. Voyage de Bretagne à Paris, mouvement sur la route. Aspect de Paris, renvoi de M. Necker. Versailles, joie de la famille royale, insurrection générale, prise de la Bastille. L'année 1789, si fameuse dans notre histoire et dans l'histoire de l'espèce humaine, me trouva dans les landes de ma Bretagne. Je ne pus même quitter la province qu'assez tard et n'arrivai à Paris qu'après le pillage de la maison Réveillon, l'ouverture des États généraux, la constitution du tiers-État en Assemblée nationale, le serment du jeu de paume, la séance royale du 23 juin et la réunion du clergé et de la noblesse au tiers-État. Le mouvement était grand sur ma route. Dans les villages, les paysans arrêtaient les voitures, demandaient les passeports, interrogeaient les voyageurs. Plus on approchait de la capitale, plus l'agitation croissait. En traversant Versailles, je vis des troupes casernées dans l'orangerie, des trains d'artillerie parqués dans les cours, la salle provisoire de l'Assemblée nationale élevée sur la place du Palais, et des députés allant et venant parmi des curieux, des gens du château et des soldats. À Paris, les rues étaient encombrées d'une foule qui stationnait à la porte des boulangers. Les passants discouraient au coin des bornes, les marchands, sortis de leurs boutiques, écoutaient et racontaient des nouvelles devant leurs portes. Au palais royal s'aggloméraient des agitateurs. Camille Desmoulins commençait à se distinguer dans les groupes. À peine fus-je descendu avec Madame de Farcy et Madame Lucile dans un hôtel garni de la rue de Richelieu qu'une insurrection éclate. Le peuple se porte à l'abbaye pour délivrer quelques gardes françaises, arrêtées par ordre de leur chef. Les sous-officiers d'un régiment d'artillerie, casernés aux Invalides, se joignent au peuple. La défection commence dans l'armée. La cour, tantôt cédant, tantôt voulant résister, mélange d'entêtement et de faiblesse, de bravacherie et de peur, se laisse morguer par Mirabeau, qui demande l'éloignement des troupes, et elle ne consent pas à les éloigner. Elle accepte l'affront et n'en détruit pas la cause. À Paris, le bruit se répand qu'une armée arrive par l'égout Montmartre, que des dragons vont forcer les barrières. On recommande de dépaver les rues, de monter les pavés au cinquième étage pour les jeter sur les satellites du tyran. Chacun se met à l'œuvre. Au milieu de ce brouillement, M. Necker reçoit l'ordre de se retirer. Le ministère changé se compose de messieurs de Breteuil, de la Galésière, du maréchal de Breuil, de la Vauguyon, de la Porte et de Foulon. Il remplaçait messieurs de Montmorin, de la Luzerne, de Saint-Priest et de Nivernais. Un poète breton, nouvellement débarqué, m'avait prié de le mener à Versailles. Il y a des gens qui visitent des jardins et des jets d'eau au milieu du renversement des empires. Les barbouilleurs de papier ont surtout cette faculté de s'abstraire dans leur manie pendant les plus grands événements. Leur phrase ou leur strophe leur tient lieu de tout. Je menai mon pain d'art à l'heure de la messe dans la galerie de Versailles. L'œil de bœuf était rayonnant. Le renvoi de M. Necker avait exalté les esprits. On se croyait sûr de la victoire. Peut-être Samson et Simon, mêlés dans la foule, étaient spectateurs des joies de la famille royale. La reine passa avec ses deux enfants. Leurs chevelures blondes semblaient attendre des couronnes. Madame la duchesse d'Angoulême, âgée de 11 ans, attirait les yeux par un orgueil virginal. Belle de la noblesse du rang et de l'innocence de la jeune fille, elle semblait dire comme la fleur d'oranger de Corneille dans la guirlande de Julie. J'ai la pompe de ma naissance. Le petit dauphin marchait sous la protection de sa sœur, et Monsieur Dutouchet suivait son élève. Il m'aperçut et me montra obligeamment à la reine. Elle me fit, en me jetant un regard avec un sourire, ce salut gracieux qu'elle m'avait déjà fait le jour de ma présentation. Je n'oublierai jamais ce regard qui devait s'éteindre sitôt. Marie-Antoinette, en souriant, dessina si bien la forme de sa bouche que le souvenir de ce sourire, chose effroyable, me fit reconnaître la mâchoire de la fille des rois, quand on découvrit la tête de l'infortuné dans les exhumations de 1815. Le contre-coup du coup porté dans Versailles retentit à Paris. À mon retour, je rebroussai le cours d'une multitude qui portait les bustes de M. Necker et de M. le duc d'Orléans couverts de crêpes. On criait « Vive Necker ! Vive le duc d'Orléans !» Et parmi ces cris, on en entendait un, plus hardi et plus imprévu, « Vive Louis XVII !» Vive cet enfant dont le nom même eût été oublié dans l'inscription funèbre de sa famille si je ne l'avais rappelé à la chambre des pairs. Louis XVI abdiquant, Louis XVII placé sur le trône, Monsieur le duc d'Orléans déclaré régent, que fut-il arrivé? Sur la place Louis XV, le prince de Lambesque, à la tête de royal allemand, refoule le peuple dans le jardin des Tuileries et blesse un vieillard. Soudain, le tocsin sonne. Les boutiques des fourbisseurs sont enfoncées et 30 000 fusils enlevés aux invalides. On se pourvoit de piques, de bâtons, de fourches, de sabres, de pistolets. On pille Saint-Lazare, on brûle les barrières. Les électeurs de Paris prennent en main le gouvernement de la capitale et, dans une nuit, 60 000 citoyens sont organisés, armés, équipés en garde nationale. Le 14 juillet, prise de la Bastille. J'assistais comme spectateur à cet assaut contre quelques invalides et un timide gouverneur. Si l'on eût tenu les portes fermées, jamais le peuple ne fût entré dans la forteresse. Je vis tirer 2 ou 3 coups de canon, non par les invalides, mais par des gardes françaises déjà montées sur les tours. Delaunay, arraché de sa cachette, après avoir subi 1000 outrages, est assommé sur les marches de l'hôtel de ville. Le prévôt des marchands, Flessel, a la tête cassée d'un coup de pistolet. C'est ce spectacle que des béats sans cœur trouvaient si beau. Au milieu de ces meurtres, on se livrait à des orgies, comme dans les troubles de Rome, sous Othon et Vitellius. On promenait dans des fiacres les vainqueurs de la Bastille, ivrognes heureux, déclarés conquérants au cabaret, des prostituées et des sans-culottes commençaient à régner et leur faisaient escorte. Les passants se découvraient avec le respect de la peur, devant ces héros dont quelques-uns moururent de fatigue au milieu de leur triomphe. Les clés de la Bastille se multiplièrent. On en envoya à tous les niais d'importance dans les 4 parties du monde. Que de fois j'ai manqué ma fortune. Si moi, spectateur, je me fusse inscrit sur le registre des vainqueurs, j'aurais une pension aujourd'hui. Les experts accoururent à l'autopsie de la Bastille. Des cafés provisoires s'établirent sous des tentes. On s'y pressait, comme à la foire Saint-Germain ou à Longchamp. De nombreuses voitures défilaient ou s'arrêtaient au pied des tours, dont on précipitait les pierres parmi des tourbillons de poussière. Des femmes élégamment parées, des jeunes gens à la mode, placés sur différents degrés des décombres gothiques, se mêlaient aux ouvriers demi-nus qui démolissaient les murs aux acclamations de la foule. À ce rendez-vous se rencontraient les orateurs les plus fameux, les gens de lettres les plus connus, les peintres les plus célèbres, les acteurs et les actrices les plus renommés, les danseuses les plus en vogue, les étrangers les plus illustres, les seigneurs de la cour et les ambassadeurs de l'Europe. La vieille France était venue là pour finir, la nouvelle pour commencer. Tout événement, si misérable ou si odieux qu'il soit en lui-même, lorsque les circonstances en sont sérieuses et qu'il fait époque, ne doit pas être traité avec légèreté. Ce qu'il fallait voir dans la prise de la Bastille, et ce que l'on ne vit pas alors, c'était non l'acte violent de l'émancipation d'un peuple, mais l'émancipation même, résultat de cet acte. On admira ce qu'il fallait condamner, l'accident, et l'on n'alla pas chercher dans l'avenir les destinées accomplies d'un peuple, le changement des mœurs, des idées, des pouvoirs politiques, une rénovation de l'espèce humaine, dont la prise de la Bastille ouvrait l'air comme un sanglant jubilé. La colère brutale faisait des ruines, et sous cette colère était cachée l'intelligence qui jetait parmi ces ruines les fondements du nouvel édifice. Mais la nation qui se trompa sur la grandeur du fait matériel ne se trompa pas sur la grandeur du fait moral. La Bastille était à ses yeux le trophée de sa servitude. Elle lui semblait élevée à l'entrée de Paris en face des 16 piliers de Montfaucon, comme le gibet de ses libertés. En rasant une forteresse d'État, le peuple crut briser le joug militaire et prit l'engagement tacite de remplacer l'armée qui licenciait. On sait quel prodige enfanta le peuple devenu soldat. Chapitre 9. Paris, novembre 1821. Effet de la prise de la Bastille sur la cour, tête de Foulon et de Berthier. Réveillés au bruit de la chute de la Bastille, comme au bruit avant-coureur de la chute du trône, Versailles avait passé de la jactance à l'abattement. Le roi accourt à l'Assemblée nationale, prononce un discours dans le fauteuil même du président. Il annonce l'ordre donné aux troupes de s'éloigner et retourne à son palais au milieu des bénédictions. Parades inutiles. Les partis ne croient point à la conversion des partis contraires. La liberté qui capitule ou le pouvoir qui se dégrade n'obtient point merci de ses ennemis. 80 députés partent de Versailles pour annoncer la paix à la capitale. Illumination. Monsieur Bailly est nommé maire de Paris, monsieur de Lafayette, commandant de la garde nationale. Je n'ai connu le pauvre mais respectable savant que par ses malheurs. Les révolutions ont des hommes pour toute leur période. Les uns suivent ces révolutions jusqu'au bout, les autres les commencent mais ne les achèvent pas. Tout se dispersa. Les courtisans partirent pour Bâle, Lausanne, Luxembourg et Bruxelles. Madame de Polignac rencontra en fuyant M. Necker qui rentrait. Le comte d'Artois, ses fils, les trois Condés, émigrèrent. Ils entraînèrent le haut clergé et une partie de la noblesse. Les officiers menacés par leurs soldats insurgés cédèrent au torrent qui les charriait hors. Louis XVI demeura seul devant la nation, avec ses deux enfants et quelques femmes, la reine, mesdames et madame Élisabeth. Monsieur, qui resta jusqu'à l'évasion de Varennes, n'était pas d'un grand secours à son frère, bien que, en opinant dans l'assemblée des notables pour le vote par tête, il eût décidé le sort de la révolution s'en défiait. Lui, monsieur, avait peu de goût pour le roi, ne comprenait pas la reine et n'était pas aimé d'eux. Louis XVI vint à l'hôtel de ville le 17. 100 000 hommes, armés comme les moines de la Ligue, le reçurent. Il est harangué par messieurs Bailly, Moreau de Saint-Méry et Lalith Hollandal qui pleurèrent. Le dernier est resté sujet aux larmes. Le roi s'attendrit à son tour. Il mit à son chapeau une énorme cocarde tricolore. On le déclara, sur place, honnête homme, père des Français, roi d'un peuple libre. Lequel peuple se préparait, en vertu de sa liberté, à abattre la tête de cet honnête homme, son père et son roi? Peu de jours après ce raccommodement, j'étais aux fenêtres de mon hôtel garni avec mes sœurs et quelques Bretons. Nous entendons crier « Fermez les portes! Fermez les portes !» Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue. Du milieu de ce groupe s'élevaient deux étendards que nous ne voyons pas bien de loin. Lorsqu'ils s'avancèrent, nous distinguâmes deux têtes, échevelées et défigurées, que les devanciers de Marat portaient chacune au bout d'une pique. C'étaient les têtes de messieurs Foulon et Berthier. Tout le monde se retira des fenêtres. J'y restai. Les assassins s'arrêtèrent devant moi, me tendirent les piques en chantant, en faisant des gambades, en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies. L'œil d'une de ces têtes, sorti de son orbite, descendait sur le visage obscur du mort. La pique traversait la bouche ouverte dont les dents mordaient le fer. « Brigand ! » m'écriai-je, plein d'une indignation que je ne pus contenir. « Est-ce comme cela que vous entendez la liberté ? » Si j'avais eu un fusil, j'aurais tiré sur ces misérables comme sur des loups. Ils poussèrent des hurlements, frappèrent à coups redoublés à la porte cochère pour l'enfoncer et joindre ma tête à celle de leur victime. Mes sœurs se trouvèrent mal, les poltrons de l'hôtel m'accablèrent de reproches. Les massacreurs, qu'on poursuivait n'eurent pas le temps d'envahir la maison et s'éloignèrent. Ces têtes et d'autres que je rencontrai bientôt après changèrent mes dispositions politiques. J'eus horreur des festins de cannibales, et l'idée de quitter la France pour quelque pays lointain germa dans mon esprit. Chapitre 10. Paris, novembre 1821. Rappel de M. Necker. Séance du 4 août 1789. Journée du 5 octobre. Le roi est amené à Paris. Rappelé au ministère le 25 juillet, inauguré, accueilli par des fêtes, M. Necker, troisième successeur de Turgot après Calonne et Taboureau, fut bientôt dépassé par les événements et tomba dans l'impopularité. C'est une des singularités du temps qu'un aussi grave personnage eût été élevé au poste de ministre par le savoir-faire d'un homme aussi médiocre et aussi léger que le marquis de Pezet. Le compte rendu qui substitua en France le système de l'emprunt à celui de l'impôt remua les idées. Les femmes discutaient de dépenses et de recettes. Pour la première fois, on voyait, ou l'on croyait voir, quelque chose dans la machine à chiffres. Ces calculs, peints d'une couleur à la Thomas, avaient établi la première réputation du directeur général des finances. Habile teneur de caisse, mais économiste sans expédient, écrivain noble, mais enflé, honnête homme, mais sans haute vertu, le banquier était un de ces anciens personnages d'avant-scène qui disparaissent au lever de la toile après avoir expliqué la pièce au public. M. Necker est le père de Mme de Staël. Sa vanité ne lui permettait guère de penser que son vrai titre, au souvenir de la postérité, serait la gloire de sa fille. La monarchie fut démolie à l'instar de la Bastille dans la séance du soir de l'Assemblée nationale du 4 août. Ceux qui, par haine du passé, crient aujourd'hui contre la noblesse, oublient que ce fut un membre de cette noblesse, le vicomte de Noailles, soutenu par le duc d'Aiguillon et par Mathieu de Montmorency, qui renversa l'édifice, objet des préventions révolutionnaires. Sur la motion du député féodal, les droits féodaux, les droits de chasse, de colombier et de garenne, les dîmes et champarts, les privilèges des ordres, des villes et des provinces, les servitudes personnelles, les justices seigneuriales, la vénalité des offices furent abolies. Les plus grands coups portés à l'antique constitution de l'État le furent par des gentilshommes. Les patriciens commencèrent la révolution, les plébéiens l'achevèrent. Comme la vieille France avait dû sa gloire à la noblesse française, la jeune France lui doit sa liberté, si liberté il y a pour la France. Les troupes campées aux environs de Paris avaient été renvoyées, et par un de ces conseils contradictoires qui tiraillaient la volonté du roi, on appela le régiment de Flandre à Versailles. Les gardes du corps donnèrent un repas aux officiers de ce régiment. Les têtes s'échauffèrent, la reine parut au milieu du banquet avec le dauphin. On porta la santé de la famille royale. Le roi vint à son tour, la musique militaire joue l'air touchant et favori. Ô Richard, ô mon roi, à peine cette nouvelle s'est-elle répandue à Paris que l'opinion opposée s'en empare. On s'écrie que Louis refuse sa sanction à la déclaration des droits pour s'enfuir à Metz avec le comte d'Estaing. Marat propage cette rumeur, il écrivait déjà l'ami du peuple. Le 5 octobre arrive. Je ne fus point témoin des événements de cette journée. Le récit en parvint de bonne heure le 6 dans la capitale. On nous annonce en même temps une visite du roi. Timide dans les salons, j'étais hardi sur les places publiques. Je me sentais fait pour la solitude ou pour le forum. Je courus aux Champs-Élysées. D'abord parurent des canons, sur lesquels des harpies, des larronnesses, des filles de joie, montées à califourchon, tenaient les propos les plus obscènes et faisaient les gestes les plus immondes. Puis, au milieu d'une horde de tout âge et de tout sexe, marchaient à pied les gardes du corps, ayant changé de chapeau, d'épée et de baudrier avec les gardes nationaux. Chacun de leurs chevaux portait deux ou trois poissardes, sales, bacchantes, ivres et débraillées. Ensuite venait la députation de l'Assemblée nationale. Les voitures du roi suivaient. Elles roulaient dans l'obscurité poudreuse d'une forêt de piques et de baïonnettes. des chiffonniers en lambeaux, des bouchers, tabliers sanglants aux cuisses, couteaux nus à la ceinture, manches de chemise retroussées, cheminaient aux portières. D'autres égypans noirs étaient grimpés sur l'impériale, d'autres accrochés aux marchepieds des laquais, au siège des cochers. On tirait des coups de fusil et de pistolet. On criait « Voici le boulanger, la boulangère et le petit mitron !» Pour oriflamme, devant le fils de Saint-Louis, des hallebardes suisses élevaient en l'air deux têtes de garde du corps, frisées et poudrées par un perruquier de Sèvres. L'astronome Bailly déclara à Louis XVI, dans l'hôtel de ville, que le peuple, humain, respectueux et fidèle, venait de conquérir son roi. Et le roi, de son côté, fort touché et fort content, déclara qu'il était venu à Paris de son plein gré. Indigne fausseté de la violence et de la peur qui déshonorait alors tous les partis et tous les hommes. Louis XVI n'était pas faux, il était faible. La faiblesse n'est pas la fausseté, mais elle en tient lieu et elle en remplit les fonctions. Le respect que doivent inspirer la vertu et le malheur du roi saint et martyr rend tout jugement humain presque sacrilège. Chapitre 11. Assemblée constituante. Les députés quittèrent Versailles et tinrent leur première séance le 19 octobre dans une des salles de l'archevêché. Le 9 novembre, ils se transportèrent dans l'enceinte du manège près des Tuileries. Le reste de l'année 1789 vit les décrets qui dépouillèrent le clergé, détruisirent l'ancienne magistrature et créèrent les assignats, l'arrêté de la Commune de Paris pour le premier comité des recherches et le mandat des juges pour la poursuite du marquis de Favras. L'Assemblée constituante, malgré ce qui peut lui être reproché, n'en reste pas moins la plus illustre congrégation populaire qui jamais ait paru chez les nations, tant par la grandeur de ses transactions que par l'immensité de leurs résultats. Il n'y a si haute question politique qu'elle n'est touchée et convenablement résolue. Que serait-ce si elle s'en fût tenue au cahier des États généraux et n'eût pas essayé d'aller au-delà? Tout ce que l'expérience et l'intelligence humaine avaient conçu, découvert et élaboré pendant 3 siècles se trouve dans ces cahiers. Les abus divers de l'ancienne monarchie y sont indiqués et les remèdes proposés. Tous les genres de liberté sont réclamés, même la liberté de la presse. Toutes les améliorations demandées pour l'industrie, les manufactures, le commerce, les chemins, l'armée, l'impôt, les finances, les écoles, l'éducation publique, etc. Nous avons traversé sans profit des abîmes de crimes et des tas de gloires. La République et l'Empire n'ont servi à rien. L'Empire a seulement réglé la force brutale des bras que la République avait mis en mouvement. Il nous a laissé la centralisation, administration vigoureuse que je crois un mal, mais qui, peut-être, pouvait seule remplacer les administrations locales alors qu'elles étaient détruites et que l'anarchie, avec l'ignorance, était dans toutes les têtes. À cela près, nous n'avons pas fait un pas depuis l'Assemblée constituante. Ces travaux sont comme ceux du grand médecin de l'Antiquité, lesquels ont à la fois reculé et posé les bornes de la science. Parlons de quelques membres de cette assemblée et arrêtons-nous à Mirabeau, qui les résume et les domine tous. Chapitre 12. Paris, novembre 1821, Mirabeau. Mêlé par les désordres et les hasards de sa vie aux plus grands événements et à l'existence des repris de justice, des ravisseurs et des aventuriers, Mirabeau, tribun de l'aristocratie, député de la démocratie, avait du Gracchus et du Don Juan, du Catilina et du Guzman d'Alfarache, du cardinal de Richelieu et du cardinal de Retz, du roué de la Régence et du sauvage de la Révolution. Il avait de plus du Mirabeau, famille florentine exilée, qui gardait quelque chose de ses palais armés et de ses grands factieux célébrés par Dante. Famille naturalisée française, où l'esprit républicain du Moyen-Âge de l'Italie et l'esprit féodal de notre Moyen-Âge se trouvaient réunis dans une succession d'hommes extraordinaires. La laideur de Mirabeau, appliquée sur le fond de beauté particulière à sa race, produisait une sorte de puissante figure du Jugement dernier de Michel-Ange, compatriote des Arrighetti. Les sillons creusés par la petite vérole sur le visage de l'orateur avaient plutôt l'air d'escarres laissés par la flamme. La nature semblait avoir moulé sa tête pour l'empire ou pour le gibet, taillé ses bras pour étreindre une nation ou pour enlever une femme. Quand il secouait sa crinière en regardant le peuple, il l'arrêtait. Quand il levait sa patte et montrait ses ongles, la plèbe courait furieuse. Au milieu de l'effroyable désordre d'une séance, je l'ai vu à la tribune, sombre, laid et immobile. Il rappelait le chaos de Milton, impassible et sans forme au centre de sa confusion. Mirabeau tenait de son père et de son oncle, qui, comme Saint-Simon, écrivait à la diable des pages immortelles. On lui fournissait des discours pour la tribune, il en prenait ce que son esprit pouvait amalgamer à sa propre substance. S'il les adoptait en entier, il les débitait mal. On s'apercevait qu'ils n'étaient pas de lui par des mots qu'il y mêlait d'aventure et qui le révélaient. Il tirait son énergie de ses vices. Ses vices ne naissaient pas d'un tempérament frigide. Ils portaient sur des passions profondes, brûlantes, orageuses. Le cynisme des mœurs ramène dans la société, en annihilant le sens moral, une sorte de barbare. Ces barbares de la civilisation, propres à détruire comme l'ego, n'ont pas la puissance de fonder comme eux. Ceux-ci étaient les énormes enfants d'une nature vierge. Ceux-là sont les avortons monstrueux d'une nature dépravée. Deux fois, j'ai rencontré Mirabeau à un banquet, une fois chez la nièce de Voltaire, la marquise de Villette, une autre fois au Palais-Royal, avec des députés de l'opposition que Chapelier m'avait fait connaître. Chapelier est allé à l'échafaud, dans le même tombereau que mon frère et M. de Malesherbes. Mirabeau parla beaucoup, et surtout beaucoup de lui. Ce fils des lions, lion lui-même à tête de chimère, cet homme si positif dans les faits, était tout roman, tout poésie, tout enthousiasme par l'imagination et le langage. On reconnaissait l'amant de Sophie, exalté dans ses sentiments et capable de sacrifices. « Je la trouvais, dit-il, cette femme adorable. Je sus ce qu'était son âme, cette âme formée des mains de la nature, dans un moment de magnificence. » Mirabeau m'enchanta de récits d'amour, de souhaits de retraite, dont il bigarrait des discussions arides. Il m'intéressait encore par un autre endroit. Comme moi, il avait été traité sévèrement par son père, lequel avait gardé, comme le mien, l'inflexible tradition de l'autorité paternelle absolue. Le grand convive s'étendit sur la politique étrangère et ne dit presque rien de la politique intérieure. C'était pourtant ce qui l'occupait. Mais il laissa échapper quelques mots d'un souverain mépris contre ces hommes se proclamant supérieurs, en raison de l'indifférence qu'ils affectent pour les malheurs et les crimes. Mirabeau était né généreux, sensible à l'amitié, facile à pardonner les offenses. Malgré son immoralité, il n'avait pu fausser sa conscience. Il n'était corrompu que pour lui, son esprit droit et ferme ne faisait pas du meurtre une sublimité de l'intelligence. Il n'avait aucune admiration pour des abattoirs et des voiries. Cependant, Mirabeau ne manquait pas d'orgueil. Il se vantait outrageusement. Bien qu'il se fût constitué marchand de drap pour être élu par le tiers-état, l'ordre de la noblesse ayant eu l'honorable folie de le rejeter, il était épris de sa naissance. « Oiseau hagard, dont le nid fut entre quatre tourelles, » dit son père. Il n'oubliait pas qu'il avait paru à la cour, monté dans les carrosses et chassé avec le roi. Il exigeait qu'on le qualifiât du titre de comte. Il tenait à ses couleurs et couvrit ses gens de livrée quand tout le monde la quitta. Il citait à tout propos et hors de propos son parent, l'amiral de Coligny. Le moniteur, l'ayant appelé Riquet, « Savez-vous, dit-il avec emportement aux journalistes, qu'avec votre Riquet, vous avez désorienté l'Europe pendant 3 jours ? Il répétait cette plaisanterie impudente et si connue. Dans une autre famille, mon frère, le vicomte, serait l'homme d'esprit et le mauvais sujet. Dans ma famille, c'est le sot et l'homme de bien. Des biographes attribuent ce mot au vicomte, se comparant avec humilité aux autres membres de la famille. Le fond des sentiments de Mirabeau était monarchique. Il a prononcé ces belles paroles. « J'ai voulu guérir les Français de la superstition de la monarchie et y substituer son culte. » Dans une lettre destinée à être mise sous les yeux de Louis XVI, il écrivait « Je ne voudrais pas avoir travaillé seulement à une vaste destruction. » C'est cependant ce qui lui est arrivé. Le ciel, pour nous punir de nos talents mal employés, nous donne le repentir de nos succès. Mirabeau remuait l'opinion avec deux leviers. D'un côté, il prenait son point d'appui dans les masses, dont il s'était constitué le défenseur en les méprisant. De l'autre, quoique traître à son ordre, il en soutenait la sympathie par des affinités de caste et des intérêts communs. Cela n'arriverait pas aux plébéiens, champions des classes privilégiées. Il serait abandonné de son parti sans gagner l'aristocratie, de sa nature ingrate et ingagnable quand on n'est pas né dans ses rangs. L'aristocratie ne peut d'ailleurs improviser un noble, puisque la noblesse est fille du temps. Mirabeau a fait école. En s'affranchissant des liens moraux, on a rêvé qu'on se transformait en homme d'État. Ces imitations n'ont produit que de petits pervers. Tel qui se flatte d'être corrompu et voleur n'est que débauché et fripon. Tel qui se croit vicieux n'est que vil, tel qui se vante d'être criminel n'est qu'infâme. Trop tôt pour lui, trop tard pour elle, Mirabeau se vendit à la cour et la cour l'acheta. Il mit en enjeu sa renommée devant une pension et une ambassade. Cromwell fut au moment de troquer son avenir contre un titre et l'ordre de la Jarretière. Malgré sa superbe, Mirabeau ne s'évaluait pas assez haut. Maintenant que l'abondance du numéraire et des places a élevé le prix des consciences, il n'y a pas de sottereau dont laquais ne coûte des centaines de mille francs et les premiers honneurs de l'État. La tombe délia Mirabeau de ses promesses et le mit à l'abri des périls que vraisemblablement il n'aurait pu vaincre. Sa vie eût montré sa faiblesse dans le bien, sa mort l'a laissé en possession de sa force dans le mal. En sortant de notre dîner, on discutait des ennemis de Mirabeau. Je me trouvais à côté de lui et n'avais pas prononcé un mot. Il me regarda en face avec ses yeux d'orgueil, de vice et de génie, et, m'appliquant sa main sur l'épaule, il me dit « Ils ne me pardonneront jamais ma supériorité. » Je sens encore l'impression de cette main, comme si Satan m'eût touché de sa griffe de feu. Lorsque Mirabeau fixa ses regards sur un jeune muet, eut-il un pressentiment de mes futuritions? Pensa-t-il qu'il comparaîtrait un jour devant mes souvenirs? J'étais destiné à devenir l'historien de hauts personnages. Ils ont défilé devant moi sans que je me sois appendu à leur manteau pour me faire traîner avec eux à la postérité. Mirabeau a déjà subi la métamorphose qui s'opère parmi ceux dont la mémoire doit demeurer. Porté du Panthéon à l'égout, et reporté de l'égout au Panthéon, il s'est élevé de toute la hauteur du temps qui lui sert aujourd'hui de piédestal. On ne voit plus le Mirabeau réel, mais le Mirabeau idéalisé, le Mirabeau tel que le font les peintres, pour le rendre le symbole ou le mythe de l'époque qu'il représente. Il devient ainsi plus faux et plus vrai. De tant de réputation, de tant d'acteurs, de tant d'événements, de tant de ruines. Il ne restera que trois hommes, chacun d'eux attaché à chacune des trois grandes époques révolutionnaires. Mirabeau pour l'aristocratie, Robespierre pour la démocratie, Bonaparte pour le despotisme. La monarchie restaurée n'a rien. La France a payé cher trois renommées que ne peut avouer la vertu. Chapitre 13. Paris, décembre 1821, séance de l'Assemblée nationale, Robespierre. Les séances de l'Assemblée nationale offraient un intérêt dont les séances de nos chambres sont loin d'approcher. on se levait de bonne heure pour trouver place dans les tribunes encombrées. Les députés arrivaient en mangeant, causant, gesticulant. Ils se groupaient dans les diverses parties de la salle selon leurs opinions. Lecture du procès-verbal. Après cette lecture, développement du sujet convenu ou motion extraordinaire. Il ne s'agissait pas de quelque article insipide de loi. Rarement une destruction manquait d'être à l'ordre du jour. On parlait pour ou contre, tout le monde improvisait, bien ou mal. Les débats devenaient orageux. Les tribunes se mêlaient à la discussion, applaudissaient et glorifiaient, sifflaient et huaient les orateurs. Le président agitait sa sonnette, les députés s'apostrophaient d'un banc à l'autre. Mirabeau le jeune prenait au collet son compétiteur. Mirabeau l'aîné criait « Silence aux 30 voix !» Un jour, j'étais placé derrière l'opposition royaliste. J'avais devant moi un gentilhomme dauphinois, noir de visage, petit de taille, qui sautait de fureur sur son siège et disait à ses amis « Tombons l'épée à la main sur ces gueux-là » Il montrait le côté de la majorité. Les dames de la halle, tricotant dans les tribunes, l'entendirent, se levèrent et crièrent toutes à la fois, leurs chausses à la main, l'écume à la bouche. « À la lanterne !» Le vicomte de Mirabeau, Lautrec et quelques jeunes nobles voulaient donner l'assaut aux tribunes. Bientôt ce fracas était étouffé par un autre. Des pétitionnaires, armés de piques, paraissaient à la barre. « Le peuple meurt de faim, disait-il. Il est temps de prendre des mesures contre les aristocrates et de s'élever à la hauteur des circonstances. » Le président assurait ses citoyens de son respect. « On a l'œil sur les traîtres, répondait-il, et l'Assemblée fera justice. » Là-dessus, nouveau vacarme, les députés de droite s'écriaient qu'on allait à l'anarchie. Les députés de gauche répliquaient que le peuple était libre d'exprimer sa volonté, qu'il avait le droit de se plaindre des fauteurs du despotisme assis jusque dans le sein de la représentation nationale. Ils désignaient ainsi leurs collègues à ce peuple souverain qui les attendait au réverbère. Les séances du soir l'emportaient en scandale sur les séances du matin. On parle mieux et plus hardiment à la lumière des lustres. La salle du manège était alors une véritable salle de spectacle où se jouait un des plus grands drames du monde. Les premiers personnages appartenaient encore à l'ancien ordre de choses. Leurs terribles remplaçants, cachés derrière eux, parlaient peu ou point. À la fin d'une discussion violente, je vis monter à la tribune un député d'un air commun, d'une figure grise et inanimée, régulièrement coiffé, proprement habillé comme le régisseur d'une bonne maison ou comme un notaire de village soigneux de sa personne. Il fit un rapport long et ennuyeux. On ne l'écouta pas. Je demandai son nom. C'était Robespierre. Les gens à souliers étaient prêts à sortir des salons, et déjà les sabots heurtaient à la porte. Chapitre 14. Paris, décembre 1821. Société, aspect de Paris. Lorsque, avant la Révolution, je lisais l'histoire des troubles publics chez divers peuples, je ne concevais pas comment on avait pu vivre en ces temps-là. Je m'étonnais que Montaigne écrivît si gaillardement dans un château dont il ne pouvait faire le tour sans courir le risque d'être enlevé par des bandes de ligueurs ou de protestants. La Révolution m'a fait comprendre cette possibilité d'existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l'avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d'ennui. Les passions et les caractères en liberté se montrent avec une énergie qu'ils n'ont point dans la cité bien réglée. L'infraction des lois, l'affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l'intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, rentré pour un moment dans l'état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social que lorsqu'il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. Je ne pourrais mieux peindre la société de 1789 et 1790 qu'en la comparant à l'architecture du temps de Louis XII et de François Ier, lorsque les ordres grecs se vinrent mêler au style gothique, ou plutôt en l'assimilant à la collection des ruines et des tombeaux de tous les siècles, entassés pêle-mêle après la terreur dans les cloîtres des petits Augustins. Seulement, les débris dont je parle étaient vivants et variaient sans cesse. Dans tous les coins de Paris, il y avait des réunions littéraires, des sociétés politiques et des spectacles. Les renommées futures erraient dans la foule sans être connues, comme les âmes au bord du Léthé avant d'avoir joui de la lumière. J'ai vu le maréchal Gouvion-Saint-Cyr remplir un rôle sur le théâtre du Marais, dans « La mère coupable » de Beaumarchais. On se transportait du club des Feuillants au club des Jacobins, des bals et des maisons de jeu au groupe du Palais-Royal, de la tribune de l'Assemblée nationale à la tribune en plein vent. Passaient et repassaient dans les rues des députations populaires, des piquets de cavalerie, des patrouilles d'infanterie. Auprès d'un homme en habit français, tête poudrée, épée au côté, chapeau sous le bras, escarpins et bas de soie, marchait un homme, cheveux coupés et sans poudre, portant le frac anglais et la cravate américaine. Au théâtre, les acteurs publiaient les nouvelles. Le parterre entonnait des couplets patriotiques. Des pièces de circonstance attiraient la foule. Un abbé paraissait sur la scène. Le peuple lui criait « Calotin, Calotin !» Et l'abbé répondait « Messieurs, vive la nation !» On courait entendre chanter Mandini et sa femme, Viganoni et Rovedino à l'opéra Buffa, après avoir entendu hurler « Ça ira !» On allait admirer Madame Dugazon, Madame Saint-Aubin, Carline, la petite Olivier, Mademoiselle Conta, Mollet, Fleury, Talma, débutant, après avoir vu pendre Favra. Les promenades au boulevard du Temple et à celui des Italiens, surnommés Coblenz, les allées du jardin des Tuileries, étaient inondées de femmes pimpantes. Trois jeunes filles de Grétry y brillaient, blanches et roses comme leur parure. Elles moururent bientôt, toutes trois. « Elle s'endormit pour jamais, » dit Grétry en parlant de sa fille aînée, « assise sur mes genoux, aussi belle que pendant sa vie. » Une multitude de voitures sillonnaient les carrefours où barbotaient les sans-culottes, et l'on trouvait la belle Madame de Buffon assise seule dans un phaéton du duc d'Orléans, stationné à la porte de quelque club. L'élégance et le goût de la société aristocratique se retrouvaient à l'hôtel de la Rochefoucauld, aux soirées de mesdames de Poix, d'Hénin, de Simiane, de Vaudreuil, dans quelques salons de la haute magistrature restés ouverts, chez M. Necker, chez M. le comte de Montmorin, chez les divers ministres, se rencontraient avec Mme de Staël, la duchesse d'Aiguillon, mesdames de Beaumont et de Sérilly, toutes les nouvelles illustrations de la France et toutes les libertés des nouvelles mœurs. Le cordonnier en uniforme d'officier de la garde nationale prenait à genoux la mesure de votre pied. Le moine, qui le vendredi traînait sa robe noire ou blanche, portait le dimanche le chapeau rond et l'habit bourgeois. Le capucin, rasé, lisait le journal à la guinguette, et dans un cercle de femmes folles paraissait une religieuse gravement assise. C'était une tante ou une sœur mise à la porte de son monastère. La foule visitait ces couvents ouverts au monde comme les voyageurs parcourent à Grenade les salles abandonnées de l'Alhambra, ou comme ils s'arrêtent à Tibur, sous les colonnes du temple de la Sibylle. Du reste, force duels et amours, liaison de prison et fraternité de politique, rendez-vous mystérieux parmi les ruines, sous un ciel serein, au milieu de la paix et de la poésie de la nature. Promenades écartées, silencieuses, solitaires, mêlées de serments éternels et de tendresses indéfinissables, au sourd fracas d'un monde qui fuyait, au bruit lointain d'une société croulante qui menaçait de sa chute ses félicités placées au pied des événements. Quand on s'était perdu de vue 24 heures, on n'était pas sûr de se retrouver jamais. Les uns s'engageaient dans les routes révolutionnaires, les autres méditaient la guerre civile, les autres partaient pour l'Ohio, où ils se faisaient précéder de plans de châteaux à bâtir chez les sauvages, les autres allaient rejoindre les princes, tout cela allègrement, sans avoir souvent un sou dans sa poche. Les royalistes affirmant que la chose finirait un de ces matins par un arrêt du Parlement. Les patriotes, tout aussi légers dans leurs espérances, annonçant le règne de la paix et du bonheur avec celui de la liberté. On chantait la sainte chandelle d'Arras, le flambeau de la Provence, s'ils ne nous éclairent pas, mettent le feu dans la France. On ne peut pas les toucher, mais on espère les moucher. Et voilà comme on jugeait Robespierre et Mirabeau. Il est aussi peu, en la puissance de toute faculté terrienne, dit l'Estoile, d'en garder le peuple françois de parler, que d'enfouir le soleil en terre ou l'enfermer dedans un trou. Le palais des Tuileries, grande geôle remplie de condamnés, s'élevait au milieu de ces fêtes de la destruction. Les sentenciers jouaient aussi en attendant la charrette, la tonte, la chemise rouge qu'on avait mise séchée, et l'on voyait à travers les fenêtres les éblouissantes illuminations du cercle de la reine. Des milliers de brochures et de journaux pullulaient, les satires et les poèmes, les chansons des Actes des Apôtres répondaient à « l'ami du peuple » ou au « modérateur » du club monarchien, rédigé par Fontane. Mallet Dupan, dans la partie politique du « Mercure », était en opposition avec La Harpe et Champfort, dans la partie littéraire du même journal. Chansonnet, le marquis de Bonnet, Rivarol, Boniface, Mirabeau le cadet, le Holbein d'épée qui leva sur le Rhin la légion des hussards de la mort, Honoré Mirabeau l'aîné, s'amusait à faire en dînant des caricatures et le petit almanach des grands hommes. Honoré allait ensuite proposer la loi martiale ou la saisie des biens du clergé. Il passait la nuit chez Madame Jay, après avoir déclaré qu'il ne sortirait de l'Assemblée nationale que par la puissance des baïonnettes. Égalité consultait le diable dans les carrières de Montrouge et revenait au jardin de Monceau présider les orgies dont la Clos était l'ordonnateur. Le futur régicide ne dégénérait point de sa race, double prostituée, la débauche le livrait épuisé à l'ambition. Lauzun, déjà fané, soupait dans sa petite maison à la barrière du Maine avec des danseuses de l'opéra entrecaressées par messieurs de Noailles, de Dillon, de Choiseul, de Narbonne, de Talleyrand et de quelques autres élégances du jour dont il nous reste deux ou trois momies. La plupart des courtisans, célèbres par leur immoralité à la fin du règne de Louis XV et pendant le règne de Louis XVI, étaient enrôlés sous le drapeau tricolore. Presque tous avaient fait la guerre d'Amérique et barbouillé leurs cordons des couleurs républicaines. La Révolution les employa tant qu'elle se tint à une médiocre hauteur. Ils devinrent même les premiers généraux de ces armées. Le duc de Lauzun, le romanesque amoureux de la princesse Xatoriska, le coureur de femmes sur les grands chemins, le Loveless, qui avait celle-ci et puis qui avait celle-là, selon le noble et chaste jargon de la cour, le duc de Lauzun, devenu duc de Biron, commandant pour la Convention dans la Vendée, quelle pitié! Le baron de Besenval, révélateur menteur et cynique des corruptions de la haute société, mouche de coche des puérilités de la vieille monarchie expirante, ce lourd baron compromis dans l'affaire de la Bastille, sauvé par M. Necker et par Mirabeau uniquement parce qu'il était suisse, quelle misère! Qu'avaient à faire de pareils hommes avec de pareils événements? Quand la Révolution eut grandi, elle abandonna avec dédain les frivoles apostats du trône. Elle avait eu besoin de leurs vices, elle eut besoin de leurs têtes. Elle ne méprisait aucun sang, pas même celui de la du Barry. Chapitre 15. Paris, décembre 1821. Ce que je faisais au milieu de tout ce bruit. Mes jours solitaires. Mademoiselle Monet. J'arrête avec monsieur de Malesherbes le plan de mon voyage en Amérique. Bonaparte et moi, sous-lieutenant ignoré. Le marquis de la Rouërie, je m'embarque à Saint-Malo, dernière pensée en quittant la terre natale. L'année 1790 compléta les mesures ébauchées de l'année 1789. Le bien de l'Église, mis d'abord sous la main de la nation, fut confisqué, la constitution civile du clergé décrétée, la noblesse abolie. Je n'assistais pas à la fédération de juillet 1790. Une indisposition assez grave me retenait au lit, mais je m'étais fort amusée auparavant aux brouettes du Champ de Mars. Madame de Staël a merveilleusement décrit cette scène. Je regretterai toujours de n'avoir pas vu M. de Talleyrand dire la messe servie par l'abbé Louis, comme de ne l'avoir pas vu, le sabre au côté, donner audience à l'ambassadeur du Grand-Turc. Mirabeau, déchu de sa popularité dans l'année 1790, ses liaisons avec la cour étaient évidentes. M. Necker résigna le ministère et se retira sans que personne eût envie de le retenir. Mesdames, tantes du roi, partirent pour Rome avec un passeport de l'Assemblée nationale. Le duc d'Orléans, revenu d'Angleterre, se déclara le très humble et très obéissant serviteur du roi. Les sociétés des Amis de la Constitution, multipliées sur le sol, se rattachaient à Paris à la société mère, dont elles recevaient les inspirations et exécutaient les ordres. La vie publique rencontrait dans mon caractère des dispositions favorables. Ce qui se passait en commun m'attirait, parce que dans la foule je gardais ma solitude et n'avais point à combattre ma timidité. Cependant, les salons, participant du mouvement universel, étaient un peu moins étrangers à mon allure et j'avais, malgré moi, fait des connaissances nouvelles. La marquise de Villette s'était trouvée sur mon chemin. Son mari, d'une réputation calomniée, écrivait avec monsieur, frère du roi, dans le journal de Paris. Madame de Villette, charmante encore, perdit une fille de 16 ans, plus charmante que sa mère, et pour laquelle le chevalier de Parny fit ses vers dignes de l'anthologie. Au ciel, elle a rendu sa vie, et doucement s'est endormie sans murmurer contre ses lois. Ainsi le sourire s'efface, ainsi meurt sans laisser de trace le chant d'un oiseau dans les bois. Mon régiment, en garnison à Rouen, conserva sa discipline à cet art. Il eut un engagement avec le peuple au sujet de l'exécution du comédien Bordier, qui subit le dernier arrêt de la puissance parlementaire. Pendu la veille, héros le lendemain, s'il eût vécu 24 heures de plus. Mais, enfin, l'insurrection se mit parmi les soldats de Navarre. Le marquis de Mortemart émigra. Les officiers le suivirent. Je n'avais ni adopté ni rejeté les nouvelles opinions. Aussi peu disposé à les attaquer qu'à les servir, je ne voulus ni émigrer ni continuer la carrière militaire. Je me retirai. Dégagé de tout lien, j'avais, d'une part, des disputes assez vives avec mon frère et le président de Rosambeau, de l'autre, des discussions non moins aigres avec Ginguené, La Harpe et Chamfort. Dès ma jeunesse, mon impartialité politique ne plaisait à personne. Au surplus, je n'attachais d'importance aux questions soulevées alors que par des idées générales de liberté et de dignité humaine. La politique personnelle m'ennuyait. Ma véritable vie était dans des régions plus hautes. Les rues de Paris, jour et nuit encombrées de peuple, ne me permettaient plus mes flâneries. Pour retrouver le désert, je me réfugiais au théâtre. Je m'établissais au fond d'une loge et laissais errer ma pensée aux vers de Racine, à la musique de Sacchini ou aux danses de l'opéra. Il faut que j'aie vu intrépidement 20 fois de suite aux Italiens la barbe bleue et le sabot perdu, m'ennuyant pour me désennuyer, comme un hibou dans un trou de mur. Tandis que la monarchie tombait, je n'entendais ni le craquement des voûtes séculaires, ni les miaulements du vaudeville, ni la voix tonnante de Mirabeau à la tribune, ni celle de Colin qui chantait à Babet sur le théâtre, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, quand la nuit est longue, on l'abrège. M. Monet, directeur des mines, et sa jeune fille, envoyée par Mme Ginguené, venaient quelquefois troubler ma sauvagerie. Mademoiselle Monet se plaçait sur le devant de la loge, je m'asseyais, moitié content, moitié grognant, derrière elle. Je ne sais si elle me plaisait, si je l'aimais, mais j'en avais bien peur. Quand elle était partie, je la regrettais, en étant plein de joie de ne la voir plus. Cependant, j'allais quelquefois, à la sueur de mon front, la chercher chez elle pour l'accompagner à la promenade. Je lui donnais le bras, et je crois que je serrais un peu le sien. Une idée me dominait, l'idée de passer aux États-Unis. Il fallait un but utile à mon voyage. Je me proposais de découvrir, ainsi que je l'ai dit dans ses mémoires et dans plusieurs de mes ouvrages, le passage au nord-ouest de l'Amérique. Ce projet n'était pas dégagé de ma nature poétique. Personne ne s'occupait de moi, j'étais alors, ainsi que Bonaparte, un mince sous-lieutenant tout à fait inconnu. Nous partions, l'un et l'autre, de l'obscurité à la même époque, moi pour chercher ma renommée dans la solitude, lui, sa gloire parmi les hommes. Or, ne m'étant attachée à aucune femme, ma sylphide obsédait encore mon imagination. je me faisais une félicité de réaliser avec elle mes courses fantastiques dans les forêts du Nouveau Monde. Par l'influence d'une autre nature, ma fleur d'amour, mon fantôme sans nom des bois de l'Armorique, est devenue Atala sous les ombrages de la Floride. Monsieur de Malesherbes me montait la tête sur ce voyage. J'allais le voir le matin, le nez collé sur des cartes, nous comparions les différents dessins de la coupole arctique. Nous supputions les distances du détroit de Béring au fond de la baie d'Hudson. Nous lisions les divers récits des navigateurs et voyageurs anglais, hollandais, espagnols, français, russes, suédois, danois. Nous nous enquérions des chemins à suivre par terre pour attaquer le rivage de la mer polaire. Nous devisions des difficultés à surmonter, des précautions à prendre contre la rigueur du climat, les assauts des bêtes et le manque de vivres. Cet homme illustre me disait « Si j'étais plus jeune, je partirais avec vous. Je m'épargnerais le spectacle que m'offrent ici tant de crimes, de lâchetés et de folies. Mais à mon âge, il faut mourir où l'on est. Ne manquez pas de m'écrire par tous les vaisseaux de me mander vos progrès et vos découvertes. Je les ferai valoir auprès des ministres. C'est bien dommage que vous ne sachiez pas la botanique. » Au sortir de ces conversations, je feuilletais Tournefort, Duhamel, Bernard de Jussieu, Groux, Jacquin, le dictionnaire de Rousseau, les flores élémentaires. Je courais au jardin du roi, et déjà je me croyais un Linné. Enfin, au mois de janvier 1791, je pris sérieusement mon parti. Le chaos augmentait. Il suffisait de porter un nom aristocrate pour être exposé aux persécutions. Plus votre opinion était consciencieuse et modérée, plus elle était suspecte et poursuivie. Je résolus donc de lever mes tentes. Je laissai mon frère et mes sœurs à Paris et m'acheminai vers la Bretagne. Je rencontrai à Fougères le marquis de la Rouërie. Je lui demandai une lettre pour le général Washington. Le colonel Armand, nom qu'on donnait au marquis en Amérique, s'était distingué dans la guerre de l'indépendance américaine. Il se rendit célèbre, en France, par la conspiration royaliste qui fit des victimes si touchantes dans la famille des Désilles. Mort en organisant cette conspiration, il fut exhumé, reconnu et causa le malheur de ses hôtes et de ses amis. Rival de Lafayette et de Lauzun, devancier de la Roche-Jacquelin, le marquis de la Rouërie avait plus d'esprit qu'eux. Il s'était plus souvent battu que le premier, il avait enlevé des actrices à l'opéra comme le second. Il serait devenu le compagnon d'armes du troisième. Il fourrageait les bois en Bretagne avec un major américain et accompagné d'un singe, assis sur la croupe de son cheval. Les écoliers de droit de Rennes l'aimaient à cause de sa hardiesse d'action et de sa liberté d'idées. Il avait été un des 12 gentilshommes bretons mis à la Bastille. Il était élégant de taille et de manière, brave de mine, charmant de visage, et ressemblait au portrait des jeunes seigneurs de la Ligue. Je choisis Saint-Malo pour m'embarquer, afin d'embrasser ma mère. Je vous ai dit, au troisième livre de ses mémoires, comment je passais par Combourg et quels sentiments m'oppressèrent. Je demeurai 2 mois à Saint-Malo, occupé des préparatifs de mon voyage, comme jadis de mon départ projeté pour les Indes. Je fis marcher avec un capitaine nommé Desjardins. Il devait transporter à Baltimore l'abbé Nago, supérieur de séminaire de Saint-Sulpice, et plusieurs séminaristes sous la conduite de leur chef. Ses compagnons de voyage m'auraient mieux convenu 4 ans plus tôt. De chrétien zélé que j'avais été, j'étais devenu un esprit fort, c'est-à-dire un esprit faible. Ce changement dans mes opinions religieuses s'était opéré par la lecture des livres philosophiques. Je croyais de bonne foi qu'un esprit religieux était paralysé d'un côté, qu'il y avait des vérités qui ne pouvaient arriver jusqu'à lui, tout supérieur qu'il pût être d'ailleurs. Ce benoît orgueil me faisait prendre le change. Je supposais, dans l'esprit religieux, cette absence d'une faculté qui se trouve précisément dans l'esprit philosophique. L'intelligence courte croit tout voir parce qu'elle reste les yeux ouverts. L'intelligence supérieure consent à fermer les yeux parce qu'elle aperçoit tout en dedans. Enfin, une chose m'achevait, le désespoir sans cause que je portais au fond du cœur. Une lettre de mon frère a fixé dans ma mémoire la date de mon départ. Il écrivait de Paris à ma mère, en lui annonçant la mort de Mirabeau. 3 jours après l'arrivée de cette lettre, je rejoignis en rade le navire sur lequel mes bagages étaient chargés. On leva l'ancre, moment solennel parmi les navigateurs. Le soleil se couchait quand le pilote côtier nous quitta, après nous avoir mis hors des passes. Le temps était sombre, la brise molle, et la houle battait lourdement les écueils à quelques encablures du vaisseau. Mes regards restaient attachés sur Saint-Malo. Je venais d'y laisser ma mère tout en larmes. J'apercevais les clochers et les dômes des églises où j'avais prié avec Lucile. Les murs, les remparts, les forts, les tours, les grèves où j'avais passé mon enfance avec Géril et mes camarades de jeu. J'abandonnais ma patrie déchirée lorsqu'elle perdait un homme que rien ne pouvait remplacer. Je m'éloignais également incertain des destinées de mon pays et des miennes. Qui périrait de la France ou de moi? Reverrai-je jamais cette France et ma famille? Le calme nous arrêta avec la nuit au débouquement de la rade. Les feux de la ville et les phares s'allumèrent. Ces lumières qui tremblaient sous mon toit paternel semblaient à la fois me sourire et me dire adieu en m'éclairant parmi les rochers, les ténèbres de la nuit et l'obscurité des flots. Je n'emportais que ma jeunesse et mes illusions. Je désertais un monde dont j'avais foulé la poussière et compté les étoiles, pour un monde de qui la terre et le ciel m'étaient inconnus. Que devait-il m'arriver si j'atteignais le but de mon voyage? Égarée sur les rives hyperboréennes, les années de discorde qui ont écrasé tant de générations avec tant de bruit seraient tombées en silence sur ma tête. La société eût renouvelé sa face, moi absent. Il est probable que je n'aurais jamais eu le malheur d'écrire. Mon nom serait demeuré ignoré, ou il ne s'y fût attaché qu'une de ces renommées paisibles, au-dessous de la gloire, dédaignées de l'envie et laissées au bonheur. Qui sait si j'eusse repassé l'Atlantique, si je ne me serais point fixé dans les solitudes, à mes risques et périls, explorés et découvertes, comme un conquérant au milieu de ses conquêtes? Mais non, je devais rentrer dans ma patrie, pour y changer de misère, pour y être tout autre chose que ce que j'avais été. Cette mer, au giron de laquelle j'étais né, allait devenir le berceau de ma seconde vie. J'étais porté par elle, dans mon premier voyage, comme dans le sein de ma nourrice, dans les bras de la confidente de mes premiers pleurs et de mes premiers plaisirs. Le jusant, au défaut de la brise, nous entraîna au large. Les lumières du rivage diminuèrent peu à peu et disparurent. Épuisé de réflexions, de regrets vagues, d'espérances plus vagues encore, je descendis à ma cabine. Je me couchai, balancé dans mon hamac, au bruit de la lame qui caressait le flanc du vaisseau. Le vent se leva, les voiles déferlées qui coiffaient les mâts s'enflèrent, et quand je montais sur le Tillac le lendemain matin, on ne voyait plus la terre de France. Ici change mes destinées, encore à la mer, again to sea, Byron.